RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC la radio, RMC Story la télé, avec autour de la table aujourd'hui Didier Giraud, l'éleveur de bovins, Flora Gebali, l'entrepreneur dans la transition écologique, et la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre. Tout à l'heure, nous parlerons de cette habitante d'un village qui a obtenu l'arrêt des cloches la nuit, parce qu'avec la canicule, elle adore la fenêtre ouverte et entendre la cloche sonner toutes les heures, ça l'empêchait de dormir. Donc elle a demandé au maire d'intervenir, qui lui a donné raison. Est-ce que effectivement en ce moment, particulièrement quand on dort à la fenêtre ouverte, bah, il faut peut-être limiter les nuisances sonores le plus possible, et notamment dans les villages, on en parlera tout à l'heure. Je vois que mon ami Didier Giraud a envie de réagir. Et puis notez que Agnès Pannier-Runacher, l'ex-ministre de la transition énergétique et désormais aux côtés de Gabriel Attal dans cette course à la présidentielle, sera face au GG. Avec elle, on parlera bien sûr de cette polémique. Est-ce que Gabriel Attal a annulé des commandes de Canadair? C'est une polémique qui est notamment alimentée par Jean-Luc Mélenchon, et l'ancien Premier ministre est obligé de se défendre. Et puis on reviendra également sur ce sujet que nous allons aborder dès maintenant, la loi sur la fin de vie qui a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Est-ce un progrès ou une régression?
Votants 561, exprimés 532, majorité 267, pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
Un scrutin serré, hein, ça s'est joué à 50 voix après des débats qui ont été animés, pour ne pas dire vifs. Donc désormais, cette aide à mourir va se mettre en place. Certains disent que ça pourrait commencer dès 2027, l'année prochaine. Alors je veux préciser quand même les critères, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on n'est pas souvent rentré dans le détail concernant cette loi. Voici les critères qu'il faudra remplir. Être âgé d'au moins 18 ans, être atteint d'une maladie grave et incurable, quelle qu'en soit la cause d'ailleurs, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Le malade devra présenter une souffrance réfractaire au traitement ou insupportable, sachant que la souffrance psychologique seule ne peut pas permettre d'accéder à l'aide à mourir. Il devra enfin être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, même s'il a écrit en amont des directives anticipées, c'est-à-dire que le patient devra faire sa demande d'aide à mourir à un médecin en activité, qui ne peut pas être un parent, un ami, un conjoint, etc. Et ensuite, c'est le médecin qui va prendre la décision. Il y aura une procédure collégiale, on va réunir des spécialistes, un médecin, etc. Et puis ensuite, la décision sera rendue sous 15 jours. Le malade a ensuite 2 jours pour confirmer ou non sa demande. Et le jour J, le médecin vérifiera que le malade confirme bien sa volonté. Il y aura une auto-administration du produit létal. On ne sait pas encore lequel, hein, parce qu'il faut définir ce produit. Ça, c'est la règle. L'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est quand quelqu'un... personne donne la mort, ça sera l'exception. C'est vraiment parce que c'est le moment où le malade ne pourra vraiment pas physiquement se donner la mort. Est-ce que ce texte est un progrès? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est offrir une liberté? Ou au contraire, c'est une régression? Flora Gebali.
C'est l'aboutissement de 20 ou 30 ans de travail législatif sur les questions d'euthanasie, d'aide à mourir. Moi, quand j'étais étudiante, on apprenait déjà ça à la fac de droit, la difficulté de... C'était la loi Leonetti à l'époque,
sur
le soin palliatif. La difficulté des cas qui sont condamnés. Hein, vous vous souvenez de l'affaire Lambert où... c'était très compliqué, c'était une personne qui était condamnée et les parents voulaient le maintenir en vie, mais l'épouse voulait en finir. Et c'est des cas de conscience et des cas moraux qui sont très compliqués. Donc moi, je suis contente qu'après plus de 20 ans de débat législatif, on arrive à une issue, sachant qu'il y a 98% des patients en fin de vie qui ne demandent pas l'aide à mourir. On parle en plus d'un cas... très minoritaire. Hein.
Concernera assez peu de gens.
C'est 98% des patients en fin de vie, et pour le coup, c'est des statistiques qui ont des décennies, donc qui sont très fiables, veulent s'accrocher et vivre. Donc oui, qu'on soulage la peine de personnes, il était temps qu'on arrive à une loi.
Didier Giraud.
Bah, du coup, moi, je vois pas bien qu'est-ce que ça change, quoi. Si ce n'est que les médecins
plutôt qu'être poursuivis devant les tribunaux derrière, seront dans un cadre légal. Mais tu l'as lu toi-même, Olivier, dans un cadre légal qui est une usine à gaz, quoi. Et concrètement,
on a mis des
les 5 cas par an en France où les gens vont faire ça en Suisse ou en Belgique, voilà, tu vas régler ces 5 cas-là. Mais dans la majorité des cas, les gens qui sont en fin de vie et qui souffrent, eh ben on les sédate jusqu'à ce qu'ils partent, quoi. Voilà.
Le décide, c'est le médecin, alors, dans ce cas-là.
Ouais, c'est ce qui se pratique aujourd'hui,
oui,
quand même.
Oui, oui.
Donc je vois pas ce que ça change concrètement pour la masse des gens qui sont atteints de quelque chose d'incurable. Je vois pas ce que ça change concrètement dans la mesure où le protocole pour mettre en œuvre ce qui vient d'être voté, c'est encore une usine à gaz française avec des règles, des machins, des trucs, des confirmations de souhaits et tout ça. Voilà, ça réglera les 5 cas des gens qui vont à l'étranger.
Donc c'était inutile, voilà, pour toi. Barbara Lefebvre.
Écoutez, chacun a raconté, aurait ou pourrait raconter des situations dans lesquelles il s'est retrouvé face à un proche dans une situation, j'ai pas cette expression de fin de vie, là ça veut rien dire, bon, au bord de la mort, voilà, parce qu'il faut dire les mots comme elles sont. Hein, donc, et ça nous arrivera tous, et on sera tous mis devant cette inéluctable fatalité. Aujourd'hui, on a un hémicycle dans lequel, si on totalise en réalité, 50,4% des députés ont adopté un texte.
Oui, c'était serré.
Voilà, ont adopté un texte qui est une, à mes yeux, une rupture éthique très importante. Pour moi, ce genre de texte, ça aurait dû passer au référendum. Et ça serait peut-être passé. Ça serait peut-être passé. Mais il y aurait eu tout un travail d'explicitation où on aurait pu davantage entendre, excusez-moi, les gens qui sont opposés à l'euthanasie, parce que c'est de l'euthanasie, dans la mesure où maintenant,
et en plus, Emmanuel Macron avait promis des référendums cette année.
Mais bon. J'ai bien compris, ça va être remboursé par la Sécurité sociale. Donc, c'est un soin. Tuer est un soin. On va demander aux médecins, dont le rôle est de soigner, on va leur dire maintenant, vous allez donner la mort à quelqu'un.
Non, c'est l'auto-administration. Mais, hein.
Non, non.
Tu n'es pas obligé d'exagérer, Barbara.
Écoute, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Il y a un certain nombre de gens qui pense la même chose que moi et le dit ce matin encore. J'entendais Dominique Reynier, qui n'est pas un horrible personnage, qui dit tuer aujourd'hui c'est soigner. Voilà, donc c'est pas que moi, on est un certain nombre à le penser. Chacun pense ce qu'il veut, de toute façon voilà, la loi est là, c'est comme pour la PMA pour toutes, ça concerne 0,0000, mais apparemment c'est ça les grandes lois du progrès. Là ça concernera 0,0 et c'est les grandes lois du progrès. Moi je regarde ce qui s'est passé au Canada.
Oui, mais ça c'est pas un argument.
Je peux juste dire une chose.
Non, mais le fait
je regarde
que ça concerne d'autres gens, c'est pas un argument.
Comment ?
C'est pas un argument contre la loi.
D'accord.
Le fait que ça concerne
alors je vais te donner un argument contre la loi.
Y a plein de lois qu'on,
si tu regardes, si tu regardes ce qui s'est passé au Canada, si tu regardes ce qui s'est passé en Belgique, en particulier la Belgique, parce que la Belgique, c'est en 2002 que l'euthanasie a été reconnue. Si tu regardes aujourd'hui où on en est, il n'y a cessé d'avoir des extensions de l'euthanasie.
C'est ça que tu crains,
en 2014, ça a été ouvert aux mineurs. Ça a été ouvert aux mineurs. Ça a été étendu aussi. Maintenant, ils sont en train de réfléchir à l'extension aux personnes atteintes d'Alzheimer qui ne sont pas en capacité de donner leur consentement. Ils sont en train d'en discuter aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que tu choques toi ? Qu'est-ce qui te choque toi ? Parce que j'aimerais comprendre pourquoi.
Moi, ce qui me choque, parce que j'y ai été confrontée, excusez-moi, c'est que d'abord, c'est les soins palliatifs. Les gens, ce qu'ils demandent d'abord, c'est les soins palliatifs. C'est cet accompagnement humain. Si en France, et moi je peux vous le dire, si en France, on était en règle par rapport à ce dont on a besoin en termes de soins palliatifs, il n'y aurait pas eu cette loi.
D'accord.
Et vous savez pourquoi ce gouvernement et cette majorité veut l'euthanasie ? Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils seront pas à la hauteur avec le vieillissement de la population. On va avoir plus de 450 000 personnes demain, d'ici 2030, c'est des chiffres. On aura au moins 450 000 personnes qui auront besoin de soins palliatifs et en France.
Donc
aujourd'hui,
c'est pour ça qu'on dit, faut
sur les 380 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs, il n'y en a que 180 000, c'est à 190 000. Ça veut dire qu'il n'y a que 50% des gens en France, aujourd'hui, au moment où on se parle, qui ont besoin de soins palliatifs et qui ont accès. Vous avez aujourd'hui 20 départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ? Est-ce qu'on peut pas faire à la fois
c'était
les soins
dans la
palliatifs
loi.
Et cette
non,
loi.
Parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Ça va faire 20 ans qu'on le dit qu'il y a un problème avec les soins palliatifs. Monsieur Macron a toujours voulu donner raison aux gens qui sont pour l'euthanasie.
Oui, alors il a défendu cette loi.
Et il n'a pas défendu les soins palliatifs. tous les médecins vous disent, les soins palliatifs, c'est ça d'abord qu'il faut mettre en priorité. Et croyez bien, il y a plein de gens qui, avant d'arriver en unité de soins palliatifs, seraient tentés par l'aide à mourir, par l'euthanasie. Et en réalité, la plupart des médecins qui travaillent en soins palliatifs vous disent, les gens cherchent à aller jusqu'au bout pour être le plus longtemps possible avec leurs proches et à être accompagnés en réduisant les souffrances.
Il n'y a pas que ce cas-là, parce que je voudrais prendre le cas d'une personnalité qui s'est battue, qui s'est mobilisée pour cette loi. Il s'appelle Charles Bietri, l'ancien journaliste sportif qui est atteint de la maladie de Charcot. Et voilà d'ailleurs ce qu'il a tweeté lorsque la loi a été votée. Je ne mourrai pas en Suisse. On partait tous les quatre, Monique, François et Juliette, revenaient seuls avec mes cendres. Les députés ont changé le cours de ma mort. Lorsque les souffrances deviendront trop fortes, je reviendrai exercer mon droit à la liberté chez moi au son de mes vagues. Voilà. Lui, il a la maladie Charcot. Oui. Donc, les soins palliatifs, c'est pas vraiment son affaire.
J'aimerais qu'on ait des tweets de gens qui sont atteints de maladies neurodégénératives et qui sont contre l'euthanasie. Mais c'est toujours pareil. Monsieur Falorni et tous ses amis, ils sortent toujours des gens connus.
J'en fais un débat éthique, Barbara.
Oui, j'en fais un débat éthique. Ah oui, l'éthique, c'est la base de l'humanité.
Mais arrête de gueuler.
Oui.
Ton explication, elle m'a convaincu, moi. Plutôt que d'en faire un débat éthique,
c'est aussi un débat éthique.
Ah ben c'est de l'éthique. La médecine, c'est de l'éthique.
Si on dit, donnons-nous les moyens d'avoir sur tout le territoire des soins palliatifs, et du coup, on n'aura peut-être plus personne qui aura besoin de l'euthanasie. Je veux dire, ce débat-là, il a jamais été posé comme ça, et je voyais pas où tu voulais en venir, et maintenant, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais c'est pas la peine pour autant d'en faire un débat éthique, quoi.
C'est un débat éthique.
C'est pas un médecin qui donne la mort parce que son patient lui a validé le protocole administratif pour en arriver là, je vois pas en quoi, pour moi, il renie son serment d'Hippocrate, quoi. Oui, je vois pas en quoi.
Aujourd'hui, on dit qu'il faudrait entre 8 et 10 lits pour 100 000 habitants. C'est le seuil qui a été reconnu à l'échelle européenne. En réalité, en France, dans la réalité, je parle pas du chiffre global, on a 3 lits pour 100 000 habitants. Oui, donc on voit bien aujourd'hui que rien n'a été fait.
Mais tu laisses croire qu'on fait l'euthanasie parce qu'on n'arrive pas à faire le reste. Ça, c'est quasiment du complot.
Et puis tu laisses croire qu'il va y avoir des centaines d'euthanasies.
En fait, on verra l'extension. Regarde-lui à Belgique et le Canada.
Il y en a combien en Belgique? Dis-moi, combien il y en a en Belgique? Ils font moins de 50 cas par an.
Je vois pas le rapport entre.
Mais donc en fait, il y a très peu de cas. Et je pense pas que le fait qu'une personne qui a la maladie de Charcot souhaite avoir cette liberté, ça n'enlève rien à la personne qui a la même maladie qui souhaite ne pas utiliser cette loi. C'est-à-dire, c'est pas une loi qui t'enlève un droit.
Elle n'aura pas accès aux soins palliatifs. Elle aura plus favorablement accès à l'euthanasie qu'aux soins palliatifs.
Mais non, c'est toi qui le dis, ça.
Réalité aujourd'hui. Tu as des centaines et des centaines de milliers, tu as des dizaines de milliers de gens qui ont besoin de soins palliatifs, qui n'ont pas accès. Demain, on leur dira, prenez plutôt l'aide à mourir, ça ira plus vite.
Mais ça, c'est ton interprétation.
Tu verras.
C'est pas ce que disent les
haine des Macron,
tu verras, tu verras.
Florent Gabali, avant d'écouter Timothée.
Il n'y aurait pas la PMA pour toutes et il y a eu la PMA pour toutes. Voilà. À chaque fois, c'est comme ça.
Timothée, qui est médecin gériatre et qui est pour cette loi, sera avec nous au 32-16 dans un instant.
Je vois pas le rapport entre soins palliatifs et aide à mourir. À partir du moment où on a le chiffre qui est que 98% des personnes ne veulent pas l'aide à mourir et veulent les soins palliatifs, il y a un autre sujet, visiblement, dont parle Barbara, qui est qu'il n'y a pas assez de lits. D'accord? Quel est le rapport avec l'autre sujet?
L'aide à mourir.
Mais personne,
tu verras.
Personne, je vois pas en quoi. Personne, parce que il a pas le bon lit et le bon service.
Je vois pas pourquoi c'est fromage et dessert.
Va décider de mourir.
Ça peut être absurde. Fromage et dessert.
Cette comparaison n'a aucun sens.
Mais non, bah si.
Dit Barbara, qu'il y a un problème en France sur le développement des soins palliatifs et les moyens qu'ils ont mis là-dessus. Ça, c'est un vrai problème.
Oui, mais c'est...
je vois pas en quoi l'administration française, aussi tordue soit-il, se dit par cette nouvelle loi sur l'euthanasie, on va pouvoir compenser notre manque de soins palliatifs.
Au Canada, la loi est très récente, c'est 2016, l'euthanasie. Aujourd'hui, avec la loi C7 qui a été votée en 2021, donc à peine 5 ans après l'introduction de l'euthanasie, il n'y a plus besoin d'avoir le pronostic vital engagé au Canada pour avoir l'euthanasie. C'est-à-dire une simple dépression sévère, tu peux avoir l'euthanasie.
Ce n'est pas prévu par la loi française.
Les Canadiens, on le sait, c'est le modèle du progressisme, voilà où ça mène. Voilà.
Bon. C'est la même chose avec la Belgique.
On va laisser Flora
Si la thèse de Barbara était vraie, le gouvernement aurait profité du Covid, ils n'auraient pas confiné. Ça aurait fait des économies dans la réforme des retraites. Je peux vous dire que si on avait. Ils se seraient dit, tiens, on laisse tomber les vieux et on économise sur les retraites des jeunes.
Bon, on va écouter Timothée dans un instant. Et je sais qu'au 32-16, ça appelle beaucoup. Est-ce que cette loi sur la fin de vie est un progrès ou une régression? À vous de le dire. Vous avez entendu les avis des grandes gueules. Il y a débat. Il y aura débat avec vous. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes sur RMC ou sur RMC Story. Les grandes gueules sont là en direct pour débattre de l'actualité avec autour de la table Didier Giraud, Flora Gebali, Barbara Lefebvre. On est sur la loi sur la fin de vie qui a été adoptée dans la difficulté hier à l'Assemblée nationale. Alors c'est pas terminé hein, parce qu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y aura sans doute aussi un recours devant le Conseil d'État. Et une fois que tous ces recours ont été étudiés, a priori, les premières personnes qui pourront commencer à bénéficier de cette aide à mourir, ça sera début l'année prochaine. Nous sommes avec Timothée qui est médecin gériatre et qui est plutôt favorable à cette loi. Bonjour Timothée.
Bonjour à tout le monde.
Vous nous appelez de Narbonne. Pourquoi vous pensez que c'est une bonne chose ?
Alors, je recontextualise parce que je suis gériatre dans le sens où c'est ma spécialité. J'étais assistant spécialiste en réanimation. Donc j'ai aussi vu vraiment, je vois les deux côtés, je connais les deux côtés. Ça ne veut pas dire que j'ai raison surtout, hein, c'est pour recontextualiser. Je suis partagé en fait, je suis pour et contre, parce que vous avez dit beaucoup de choses pour lesquelles je suis d'accord et pour lesquelles je suis pas d'accord. La loi actuelle, elle est très bien, mais elle est insuffisante. Elle répond à la catégorie de patients qui souffrent de maladies chroniques, incurables, et on doit dans ce cas-là attendre une symptomatologie intolérable et réfractaire au traitement pour pouvoir enfin aider nos patients à finalement ce qu'on appelle faire une sédation profonde et continue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'attente. C'est-à-dire que le patient, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, souffre de manière intolérable. Il faut bien l'imaginer. Pour le patient qui souffre, les jours, c'est extrêmement long quand même.
Bien sûr.
Donc,
il y avait un petit vide à combler. Voilà.
Tout à fait. Et en fait, cette loi, elle répond à la deuxième catégorie de patients qui ne veulent pas attendre, qui souffrent de manière chronique et dont le jugement médical dit, c'est une souffrance, elle est là, on peut l'objectiver, mais elle n'est pas intolérable. Et puis, donc, ça discute, ça prend des mois, on fait pas avec ça. Donc, la loi actuelle ne répond pas totalement, en fait, à cette catégorie de patients. Vous avez raison, ça ne concerne pas énormément de patients.
Non.
Mais en fait, on n'est pas là pour décider, ils sont peu, donc on s'en occupe pas. On parle de patients qui souffrent énormément depuis parfois des années. Donc, on n'est pas le quantitatif ne compte pas à l'actuel. Pour moi,
mais par exemple, prenons un cas, parce que c'est un cas que lui-même il médiatise, c'est celui de Charles Biétry, l'ancien journaliste sportif de Canal+, qui a la maladie Charcot, qui s'est battu pour cette loi, là qui écrit, moi, j'aurais pas besoin d'aller en Suisse quand je le déciderais, je pourrais mourir chez moi ou en tout cas, en France. Il rentre vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire que sa maladie à un moment donné va le faire tellement souffrir. On sait que c'est une maladie qui est incurable. Qui rentrera dans ce critère-là ?
Oui. Maintenant, je ne suis pas le médecin, ou je n'étais pas malheureusement, en tout cas le médecin de M. Guitry, donc je ne veux pas m'exprimer sur un cas particulier, parce que si ça concerne d'autres patients, et il y a des maladies qui font souffrir d'un point de vue psychologique, d'autres qu'on appelle nociceptives, ce sont des douleurs quand on se fait mal classique. Il y a plusieurs types de douleurs, et c'est chaque cas particulier. Mais cette loi, elle ne peut pas répondre aux cas particuliers. Elle répond peut-être pas à une population entière, mais elle répond à une population qui en a besoin. Et là où vous avez raison, c'est que la Belgique et la Suisse, c'est une solution. Mais est-ce qu'on veut avoir justement une inégalité sur le plan financier, où le patient qui habite dans le sud-ouest de la France doit avoir un transport médicalisé qui coûte plusieurs milliers d'euros. En fait, donc cette loi, elle répond aussi à une égalité, à plus d'égalité. Après, je me permets de rebondir sur les soins palliatifs. Oui, il y en a un passé. Il y a clairement une insuffisance. Je crois que tout le monde le reconnaît. Mais en fait...
Vous avez vu, Barbara, elle a peur que, finalement, avec cette loi, on se dise pas besoin de développer les soins palliatifs. Il y a cette loi. C'est-à-dire que ça empêche...
Alors qu'on a... J'en ai peur aussi.
Oui, vous en avez peur aussi, quand même.
Bien sûr.
Surtout qu'on n'a plus d'argent.
C'est-à-dire que, en fait, la priorité, on est aussi, moi, je suis d'accord avec vous, la priorité était peut-être d'abord d'augmenter d'un point de vue quantitatif, et aussi qualitatif d'ailleurs, le nombre d'unités sans palliatifs.
C'est ce que beaucoup de gens, et notamment de députés qui étaient opposés à cette loi, disaient, mettons le paquet sur le soin palliatif, et une fois qu'on aura mis du soin palliatif partout, s'il y a encore besoin de cette loi, faisons-la.
Mais en fait, aussi, l'argument, vous avez raison, l'argument, que j'entends aussi beaucoup, c'est une fois que les patients ont accès à des soins palliatifs de qualité, en fait, il y en a encore moins, il y en a quasiment plus qui veulent mourir. Mais encore une fois, ils ont peut-être raison, mais ça ne répond pas à la totalité des patients. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis là pour soigner tous les patients. S'il y en a un par mois, par an, que je peux aider, malheureusement, parce qu'en fait, le serment d'Hippocrate, il dit qu'effectivement, on j'entends aussi à tuer, c'est pas un soin. Mais attendre un patient qui souffre et ne pas pouvoir lui offrir de possibilités, et même une fois qu'il est passé aux soins palliatifs, il y en a qui passent aux soins palliatifs.
Oui, et puis surtout qu'il y a des médecins qui le font déjà.
Ils veulent quand même mourir. Ouais. En fait, c'est vraiment quelque chose de... Moi, que je trouve ça un
c'est personnel. C'est personnel et c'est des cas particuliers, en
mais
fait.
Vous voyez, oui, c'est ça. J'entends tout à fait votre témoignage et il est très intéressant. Mais c'est toute la difficulté. La loi ne peut pas incorporer toutes les individualités, toutes les histoires personnelles. Et justement, s'approcher de la mort, il n'y a rien de plus intime, de plus individuel, de plus lié à votre histoire, à votre culture, éventuellement à vos croyances. Oui. Donc, comment est-ce qu'une loi qui, par nature, est une loi générale, elle peut venir répondre à tous les cas? Ce n'est pas possible. Et justement, il y a cette volonté, me semble-t-il, dans nos sociétés, et en particulier dans nos sociétés démocratiques, très individualistes, et que c'est à la fois quelque chose de grand, parce qu'on veut essayer de répondre à toutes les difficultés de chaque individu, mais on ne pourra jamais, la loi ne viendra pas répondre à chaque individualité. Non, mais c'est pour ça qu'il faut y aller très, sur ces sujets-là, qui sont des sujets éthiques de grande importance, qui touchent au fond du fond de l'intime, c'est la naissance et la mort. Je trouve que là-dessus, on devrait être beaucoup plus précautionneux qu'on ne l'est, de la même façon qu'on a été, à mes yeux, pas précautionneux sur l'usage de la PMA, de la généraliser. Donner la vie, ce n'est pas anecdotique. Donner la mort, ce n'est pas anecdotique. Ce sont des choses qui relèvent de l'intime, du choix personnel. Je trouve que ces gens-là se sont arrogés, ces députés et tous ceux derrière qui ont agi de façon extrêmement agressive en termes de lobbying, se sont posés en donnant des leçons. Moi, je trouve que eux ont vraiment été les grands donneurs de leçons là-dessus. Absolument pas ceux qui étaient contre l'euthanasie, qui ont essayé de s'exprimer comme ils ont pu d'ailleurs, mais qui se sont à chaque fois, comme pour la question de la PMA, se sont fait traiter de réac, etc. Alors que non, c'est poser des questions d'éthique individuelle. Voilà, moi c'est tout. Mais après, la loi est là. On verra bien comment ça évoluera, mais encore une fois, ces lois-là, on sait, elles avancent dans un sens, on n'arrivera jamais à faire marche arrière, et le sens dans lequel elles vont, pour ma vision à moi, c'est pas dans le bon sens, ça va pas du tout dans le sens du progrès.
On remercie Timothée d'avoir été avec nous, le médecin gériatre. Maintenant, nous sommes avec Nicolas, qui nous appelle de l'Aube. Bonjour Nicolas.
Bonjour les juges.
Alors, vous avez, vous, le cas de votre papa, c'est ça?
Tout à fait, ouais, qui a été atteint de la maladie de Charcot, diagnostiqué très tard et qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant.
D'accord. Mais donc, à l'époque, il n'y avait pas cette loi?
Il n'y avait pas cette loi et en fait, il y avait tout un vide juridique. Quand malheureusement, la nouvelle est tombée, il a été très bien accompagné, on va dire, par une équipe à Lyon, parce qu'on était, je suis originaire de Saône-et-Loire, hein, comme Didier, du côté de entre Givry et Mercuray, voilà, des domaines qu'on parle à tout le monde. Et en fait, il a été très très bien accompagné par les équipes médicales de Lyon, mais malheureusement, on le sait, Charcot, une fois que c'est là, et il n'y a pas de solution, et donc on avait réfléchi pour aller en Suisse ou dans d'autres pays, parce que moi je trouve qu'il y a un paramètre qui a été oublié de citer, c'est notamment les aidants. Moi, je vois ma mère, elle a dû s'arrêter de travailler. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas mal d'émotions. Elle a dû s'arrêter de travailler pour justement accompagner mon père, qui, malheureusement, perdait un coup, c'était la main. Après, la deuxième main, ensuite, c'était les jambes. Et voir son père pleurer alors que c'était une force de la nature, franchement, ouais, c'est une horreur. Et cette loi, justement, on est très contents, voilà, pour ceux qui accompagnent les associations comme... l'ARSA et autres, justement pour lutter contre cette maladie-là, le fait qu'il y a cette loi, mais surtout, et là je rejoins un petit peu l'esprit de Barbara, il faut surtout pas que ça dérive, il faut vraiment que ce soit pour des cas particuliers, mais au moins qu'on offre cette possibilité-là aux personnes concernées, c'est un soulagement, mais qu'on n'oublie pas les aidants, parce qu'aujourd'hui mon père a travaillé toute sa vie, il a profité seulement de 2 années de sa retraite, et ma mère n'ayant pas eu une carrière complète, et achetée notamment quand elle était jeune, elle a élevé, elle les a retrouvés avec une pension de reversion de 50 balles. Hein.
Ah oui.
Donc, je veux dire aujourd'hui aussi...
C'est vrai qu'on en parle pas assez des problème, aidants. Il y a le statut des aidants. Mais ça veut dire que votre papa, il a bénéficié d'une aide à mourir?
Oui, il a pu bénéficier d'une aide à mourir en France.
Alors, ah bon, finalement, alors.
Alors, je ne saurais pas vous dire par quel biais, parce que voilà, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais ça a été une usine à gaz, et il a fallu jouer de... bah, comme beaucoup, hein, de tonnes de relations à droite et à gauche.
Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, il fallait avoir les bonnes relations.
Il a sans doute. Et puis, si vous changez d'avis, vous pouvez faire un procès au médecin pour pousser la seringue.
Non, mais il a eu recours sans doute.
De la scène. Excusez-moi. Je me rappelle de la scène. On était dans la chambre. Il y avait trois infirmières, une médecin qui était là.
Oui.
Êtes-vous sûr? Si vous voulez changer d'avis, on reprend le matériel jusqu'à la dernière seconde. Les médecins disaient, vous pouvez changer d'avis, c'est voilà.
Nicolas, je ne connais pas du tout évidemment l'affaire de votre papa, mais je pense qu'il a eu recours d'une certaine façon à une équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire que les soins palliatifs, ça, quand vous avez la sédation profonde, c'est une forme d'aide à mourir, si on veut le dire de cette façon-là. Mais c'est entouré et encadré par les soins palliatifs. Donc vous avez des équipes mobiles et vous pouvez même avoir des médecins généralistes qui sont spécialisés et qui, je rappelle quand même que 83%, 85% des Français veulent mourir à domicile et qu'on a quand même encore aujourd'hui 53% des décès qui sont à l'hôpital. Donc peut-être que à domicile, moi j'ai connu ce cas où effectivement il y a eu un accompagnement qui a duré plusieurs jours et à domicile, petit à petit, ça a été la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On peut considérer que c'est une aide à mourir, mais ça ne s'est pas fait avec une euthanasie, ça s'est fait avec un accompagnement où on a pu continuer à accompagner cette personne de ma famille et elle est restée chez elle et ça s'est fait comme on voulait et on a pu être à ses côtés jusqu'au bout. Mais je pense que pour votre papa, c'est pas vraiment une euthanasie, c'est en réalité un accompagnement par des équipes mobiles de soins palliatifs.
Ouais, mais là, on est sur la frontière est très étroite. Ouais, hein.
Non, elle est pas, et la différence, c'est la famille qui se retourne et qui fait un procès. Voilà. C'est ça, la différence.
L'avantage, si j'ose dire, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on offre un cadre assez précis.
Les médecins qui font ça sont protégés juridiquement.
Voilà. Parce que quand même, la loi... Merci Nicolas pour ce témoignage. Non, merci beaucoup.
C'est un plaisir et continuez ce que vous faites. Et surtout qu'on pense aux aidants.
Bien sûr.
Vous avez raison.
Oui, surtout dans un pays qui vieillit.
Et qu'on pense aux parents aidants aussi, encore une fois, j'en reparle, des enfants, notamment des enfants autistes dont Monsieur Macron avait dit qu'il s'occuperait. On est 10 ans après, il s'en occupe toujours pas. Non, mais c'est très.
Ça nous manquait le coup de rapport.
Non, parce que la question des enfants en situation de handicap, notamment de handicap mental, qui n'ont pas de structure d'accueil, etc., qui sont obligés là aussi d'aller en Belgique. Alors, c'est pas aller en Belgique pour être euthanasié, c'est aller en Belgique pour trouver une structure. Donc, je le dis, rien ne va. Rien ne va.
Oui. Et puis, on va donner la parole à Taïeb qui nous appelle du côté de Lyon. Bonjour Taïeb.
Bonjour les grandes gueules. Merci de m'accorder un peu de temps. Moi, je vais vous dire, enfin, ça arrive. Moi, typiquement, je suis atteint d'une maladie qui est incurable qu'on appelle sclérose en plaques. Moi, aujourd'hui, il faut être très clair. C'est à moi de décider. Et de toute façon, j'avais entamé les démarches pour faire ça à l'étranger. C'est à moi de décider de ma vie. C'est à moi de décider de ma fin de vie. Moi, faut arrêter de m'opposer une pseudo-morale ou une éthique. Ça, c'est propre à chacun. Chacun est libre de décider. C'est pas une question de soins palliatifs.
Sauf que pardon, de vous interrompre, je comprends ce que vous dites. Mais alors, dans ce cas-là, on va vous répondre. Mais il y a le suicide. Quelqu'un peut toujours se suicider s'il veut décider de mourir.
Ah mais ça je suis complètement d'accord avec vous. Moi la seule raison pour laquelle je me suis pas suicidé, c'est que j'avais peur de me louper.
Parce que comme je suis pas mal. Expliquez-nous, excusez-nous, racontez-nous un peu votre histoire. Vous avez quoi, 43 ans, c'est ça?
J'ai 43 ans.
Vous souffrez depuis combien de temps de cette maladie?
Depuis l'âge de 30 ans, ça a été les cadeaux de ma 30e année. Et du coup, aujourd'hui, quand je me déplace, en gros, je me déplace en fauteuil roulant électrique. Et à Lyon, bon, c'est une horreur de se déplacer dans les transports en commun d'un quotidien, comme partout dans les grandes villes, même partout en France finalement.
Ouais, bien sûr.
La vie n'est pas faite pour les personnes qui sont dans ma situation et qu'aujourd'hui, c'est trop pesant, trop difficile. Et qu'aujourd'hui, moi, si je peux partir... disons proprement, facilement, et ben justement je veux qu'on m'offre cette opportunité. Je fais pas du prosélytisme, hein, je demande pas ce que tout le monde en bénéficie.
Je suis pas sûr que vous rentriez dans les critères. C'est pour ça que je vous parlais du suicide d'une façon un peu abrupte, hein, désolé, mais je pense pas que vous rentrez pas dans les critères qu'on a fixés, hein, à mon avis.
Il faut un pronostic vital engagé et des souffrances réfractaires. Donc.
Et ben justement, le pronostic vital, étant donné qu'on peut pas me soigner, c'est clair, et les douleurs, elles sont tout le temps quotidiennes présentes.
Bien sûr.
Et donc, du coup, j'espère que ça va tout dépendre du décret d'application. Et en fait, c'est là où, pour l'instant, il y a encore une interrogation, parce que forcément, moi, j'en ai parlé hier d'entrée de jeu avec mon neurologue en disant que moi, je voulais vraiment bénéficier de cette loi. Et justement, torqué que d'Inde avec la loi sur le vote, évidemment, mais c'est le décret d'application concrètement qui allait expliciter les éléments et si je faisais partie des cas qui étaient acceptés ou pas. Et
a priori, c'est un pronostic vital en phase avancé ou terminal, le malade doit présenter une souffrance que vous avez, un réfractaire au traitement et insupportable, sachant que la souffrance psychologique peut pas être le seul critère.
Tout à fait. Mais pour autant, la souffrance physique est clairement là. Donc, ouais, c'est aussi la limite. Et je ne sais pas, en fait, de quel côté va tomber la pièce. Donc, moi, très clairement, avec vous, j'espère que la pièce va tomber du bon côté. Très clairement. Mais je veux juste qu'on nous laisse, enfin, on nous laisse la possibilité, enfin, on nous offre cette capacité-là. Et qu'aujourd'hui, objectivement, heureusement qu'on va dans cette direction. Tous les pays européens le font. Pas les pays européens le font. Pourquoi est-ce que nous, on ne donnait pas ce droit-là? Heureusement qu'on nous offre
pas tous les pays européens, non, pas tous les pays européens. Belgique et Suisse.
La Suisse. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres pays européens qui le font, vous devriez regarder Barbara. Et puis moi, j'en ai marre que les gens me disent des discours typiquement, les soins palliatifs, c'est pas adapté à ma personne, ça ne colle pas. Donc du coup, moi, ça ne répond pas à mes attentes.
Bien sûr. Oui, mais la loi ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde. C'est ça, c'est ce que j'ai juste essayé de dire. Je reconnais les difficultés de chacun, c'est pas le problème, mais la loi, elle ne peut pas coller aux histoires individuelles, hyper individuelles et hyper intimes de chacun. Généralement aussi, il y a plein de lois qui répondent. Il y a plein de lois qui répondent.
Du coup, la loi, là, elle donne un cadre à Taïeb pour disposer de sa vie.
Oui, mais il y a plein de lois qui ne répondent pas à mon cas non plus. Et je vais pas aller faire une histoire parce qu'il n'y a pas des lois qui répondent à mon cas spécifique.
C'est pas votre cas spécifique, c'est un cas plus général pour que nous, on puisse en bénéficier quand on veut. C'est tout. C'est à partir du moment où on est malade qu'on nous laisse le choix. Moi, j'ai pas envie de partir en Suisse pour faire ça. Pourquoi je partirais en Suisse? Il n'y a pas de raison, par exemple, en Belgique, que je le fasse en France. C'est tout ce que je réclame. Et on m'offre enfin cette liberté. Je suis super content. C'est top.
Mais en quoi est-ce que les soins palliatifs, ça ne peut pas vous concerner?
On va s'arrêter là. Et on va vous souhaiter aussi, on va souhaiter aussi que la science avance et puisse effectivement vous aider avec cette sclérose en plaques, parce qu'il y a aussi il y a l'avancée de la science.
Et
on espère que
ça. Donnez à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, faites vos dons.
Taïeb, merci en tout cas et bon courage à vous. Merci d'avoir appelé et merci de votre franchise. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Loi sur la fin de vie votée. Est-ce que c'est un progrès ou une régression? Vous dites progrès à 60,6%. Les Français sont plutôt favorables à cette loi sur la fin de vie. S'il y avait eu un référendum, à mon avis, ils auraient dit oui.
Y a pas
ils sont moins partagés qu'au Palais Bourbon.
S'il y avait eu un référendum, l'intérêt, c'est qu'il y aurait eu un débat beaucoup plus équilibré. Alors que dans les médias, on a entendu majoritairement les pro-euthanasie et ça, c'est avéré.
Peut-être. Mais c'est vrai que les Français, dans tous les sondages, étaient quand même plutôt favorables à cette loi. Dans un instant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans ce village. Vous savez qu'avec la canicule, on dort avec les fenêtres ouvertes, sauf qu'il y a beaucoup de bruit souvent à l'extérieur. Et il y a notamment les cloches. Et donc, il y a une habitante qui a réussi à obtenir la fin de la cloche. La cloche ne sonne plus dans son village la nuit. Le maire lui a donné raison. Est-ce qu'il a eu raison? À tout de suite sur RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Didier Giraud, notre agriculteur, la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre et l'entrepreneur dans la transition écologique Flora Guebali. Dormir les fenêtres ouvertes en pleine canicule, ça on essaie de le faire. Alors en ville c'est l'enfer, mais pas seulement en ville. Dans certains villages ça peut être infernal à cause du bruit des cloches. Et une habitante a obtenu qu'on arrête les cloches la nuit. Le maire a dit oui. Alors ça, c'est sympa la journée. C'est vrai que la nuit, ça peut être assez insupportable. Donc, cet habitant de la commune de Vindry-sur-Turdine, dans le Rhône, situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, a demandé et obtenu de la mairie l'arrêt des tintements nocturnes du clocher, comme dans les villages aux alentours. C'est l'église de Pontcharra qui est concernée. L'arrêté municipal pour mettre fin au bruit des cloches, c'est entre 23h et 6h du matin. Ça va régler le problème des insomnies de cette habitante. Le maire a dit que c'était un acte de bon sens. Ça va permettre d'harmoniser surtout le territoire communal, parce qu'effectivement il y avait des endroits où ça sonnait, d'autres où ça sonnait pas, donc ça sonnera nulle part maintenant de 23h à 6h du matin. Est-ce qu'il faut effectivement peut-être généraliser ce genre de mesure, Flora Guebali?
Non mais moi je
Bah, le sommeil, c'est important.
Oui, d'accord, mais on est vraiment en train de... Enfin, je suis désolée, mais en fait, c'est la France brûle et les gens peuvent pas dormir parce qu'il fait chaud. Parmi les mesures d'adaptation, on est en train de dévorer toute l'eau. Enfin, la sécheresse est en train d'assécher toutes les rivières de France. Et on est en train de parler des clochers parce qu'il y a une bonne dame qui veut dormir. Franchement, désolée, mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est que bientôt, ça va être la guerre de l'eau et qu'on n'aura plus assez d'eau douce pour subvenir aux besoins de l'humanité. Je sais pas. Et qu'il y a Jeff Bezos qui a dit que c'est pas grave parce que l'IA a plus besoin d'eau que les hommes. Donc, il faudra donner l'eau des hommes à l'IA. Enfin, excusez-moi, c'est ça le sujet.
Didier Giraud, toi qui vis à la campagne.
Alors, ouais, parce que redis-moi, j'ai peut-être pas très bien compris. C'est l'église de Pontcharrat qui gênait la dame de Vindry.
Voilà.
Donc on fait arrêter l'église, la cloche dans l'église du village d'à côté. Non mais c'est de la folie ça. Moi je considère que ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est ceux qui sont pas assez fatigués de leur journée de travail. Première chose. Deuxième chose, si tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a des bruits qui viennent, alors c'est la cloche, mais demain ça sera quoi? Ce sera les vaches.
Exactement.
Voilà. Donc, à un moment donné.
La cloche, est-ce qu'elle a besoin de
sonner? Si t'arrives pas à dormir, la fenêtre ouverte, tu fermes la fenêtre. Et voilà. Le problème, il est réglé, quoi.
Non, mais. Il y a une adolescente en Île-de-France qui est morte d'hyperthermie. Enfin, vous savez.
Elle était gravement malade.
Excuse-moi, mais entre le bien-être des hommes et des femmes, la nuit par temps de canicule et la cloche, il faut choisir son temps.
Oui, d'accord.
Est-ce que la cloche ne sonne pas la nuit?
Est-ce qu'il y a que ça dans cette histoire? Est-ce qu'il y a pas?
Enfin. Le maire a donné.
Je crois qu'elle est toute seule.
Moi, je trouve que le maire, il a tort.
Elle est toute seule dans sa commune.
Une boîte de Pandore où l'intérêt individuel, fait en sorte qu'on est en train de tuer notre mode de vie. Et dans notre mode de vie, il y a
les
vaches, les tracteurs, les voitures, les cloches.
On tue notre mode de vie.
Et si demain matin, il y a quelqu'un qui travaille de nuit dans ce village et qui demande que les cloches s'arrêtent le jour parce que lui, il dort la nuit, on arrête les cloches le jour aussi? Arrête les cloches partout. On est en train de tuer notre mode de vie occidental.
On est bien toujours sur cette même question. Donc, pour une personne du village, on arrête, on prend une règle et on prend une mesure
pour tous.
Une personne, règle pour tous. C'est-à-dire que plus personne, alors que personne d'autre ne s'est plaint que cette dame. Donc, demain, ils se plaindront du chant du coq. C'est tellement arrivé. Ça arrive tout le temps.
Il y a eu des procès.
Les chants du coq. Et va que je te tue le coq. Et sinon, c'est les vaches. Et sinon, c'est les cochons. Mais si les cloches la gênent, encore une fois, elle s'achète des ventilos. Et puis, elle ferme les fenêtres. Ben. Je suis navrée. Les cloches sonnent. Et oui, les cloches sonnent. Alors oui, j'imagine bien, régulièrement. Elle ferait quoi s'il y avait le RER qui passe à côté? Au moment où on se parle, il y a des gens qui vivent à côté du métro aérien. Il y a des gens qui vivent à côté du RER. Le RER, il passe, Ils vont faire quoi? On va demander l'arrêt du train?
Pardon.
Parce qu'il faut que tu dormes la tête
ouverte.
C'est
des mauvais exemples que tu donnes, puisqu'on essaye effectivement de limiter les nuisances sonores en ville.
Oui.
On couvre le périphérique, par exemple. Oui. On met des panneaux isolants.
Ben on n'a pas couvert le RER,
on essaie de mettre des panneaux isolants des voies, etc. Bien sûr que, je pense que le bruit est une vraie pollution. Et je pense que ça rend dingue les gens. Et dans des villes, on est plus en plus nombreux et stressés.
Mais je suis d'accord avec toi.
Et en plus, quand il fait très chaud.
J'habite dans une ville.
Les fenêtres, ça paraît.
J'habite à Versailles. À Versailles, il y a trois gares. Il y a les trois gares de Paris qui passent dans Versailles. D'accord? Donc, c'est hyper urbanisé et le train, il est au milieu de la ville. Tu penses que il fait chaud, tout le monde a les fenêtres ouvertes.
Ah oui.
Tu penses qu'on va arrêter de faire circuler les trains à Versailles parce que les gens vont dire
d'autres nuisances.
Moi j'ai trop chaud, faut que je ferme la fenêtre.
D'autres nuisances où l'État ne fait rien.
Il y a des
gens dans le fond de l'Aveyron ce week-end qui ont écouté une rave party légale toute la nuit.
Voilà.
Il y a des gens qui toutes les nuits peuvent pas dormir les fenêtres ouvertes parce que en bas de chez eux il y a des rodéos urbains. Mais c'est pas pour autant que
c'est interdit.
Oui, mais c'est pas pour autant que la puissance civile répond.
Moi, il y a un bar.
Vous n'avez pas de solution. En fait, il y a une dame qui n'arrive pas à dormir la nuit.
Ah, mais j'ai une solution.
Le seul truc que tu réponds, c'est une tradition.
Si,
on change rien.
Mais moi, il y a un bar très festif en bas de chez moi. En hiver, ils font la fête le jeudi et le vendredi et le samedi. Et là, je sais pas pourquoi ils sont mis à faire la fête le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. C'est pas tous les jours facile. Bon, j'ai jamais appelé la police ou quoi. Je me dis juste, j'ai choisi d'habiter là, je me débrouille. Si j'ai envie de calme, je déménage.
Exactement. Habiter au milieu de la forêt de Fontainebleau comme un ermite. Et puis, ma foi, quand elle brûle, tu te sauves.
Ouais, mais moi je trouve que vous sous-estimez le fait qu'on a changé d'époque, qu'aujourd'hui.
Ah oui, on sous-estime pas, ouais. On déplore justement.
Bah, parce qu'il faut que chacun soit respecté. Voilà,
chacun. Non, c'est pas que chacun soit respecté.
La liberté, elle s'arrête là où ça empiète sur la liberté de l'autre.
Mon petit ego doit être satisfait. Voilà. Ma petite personne. Il n'y a plus d'intérêt général. On vit plus en communauté nationale. On vit plus tous ensemble.
Bah justement,
c'est mes petits intérêts. Moi, j'ai pas envie d'entendre le coq. Alors, je vais casser les pieds à tout le monde pour qu'on.
Le coq, c'est autre chose.
Non, je suis désolée.
Moi, je trouve que la cloche,
ça change
le pied dans la porte.
De savoir qu'elle sonne à 4 heures du matin, la cloche.
Bah oui, elle sonne.
Vraiment, dans votre vie, c'est important.
Quand t'es réveillé, tu sais pas quelle heure il est, t'écoutes. Voilà. Les gamins, j'écoutais la pendule de mes grands-parents.
Tu mets des boules
caisses,
tu fermes les fenêtres, tu mets des boules caisses.
Non, mais si tu
l'entends
pas, c'est que t'es pas assez fatigué, ça c'est sûr.
Maude est avec nous. Maude nous appelle de 7 dans l'Hérault. Bonjour, Maude.
Bonjour, les GG.
Est-ce qu'on a raison de supprimer les cloches la nuit dans ce village ?
Ils deviennent complètement tarés, quoi. Tous, c'est... Moi, par exemple, je vis à 7, donc on va arrêter les cornes de brune des bateaux.
Cavelleville.
Oui.
On va couper l'alarme du mercredi. Qu'est-ce qu'on fait ? On sédate les bébés pour pas qu'ils pleurent la nuit. Je sais pas, les gens qui se baladent à la fraîche, il faut qu'ils se taisent. Mais ça nous lie. C'est quelque chose qui nous lie. C'est quelque chose qu'on entend tous en même temps. C'est comme l'horloge des grands-parents. Elle nous emmerde, mais elle nous lie. On sait quelle heure il est. C'est un repère. On est ensemble à tous vivre la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ?
Donc les cloches nous rassemblent. Elles ne doivent pas nous diviser, c'est ce que vous dites.
Ben oui, mais même en dehors de la religion. Mais même les minarets en Orient, ils ne s'arrêtent pas. C'est pas comme si c'était l'Alaska.
Ouais.
Oh, je pense que
c'est la première marche d'un escalier qui me plaît pas sur les nuisances sonores en milieu rural. C'est enfin voilà, il y a tous les ans des plaintes sur des gens qui
le coq.
Non, là c'est temps les moissonneuses batteuses parce qu'il y a des arrêtés qui nous empêchent de moissonner de telle heure à telle heure.
T'as pas le droit de tondre ta pelouse par exemple à certaines heures et c'est normal.
On dirait
aujourd'hui dans le département de l'Yonne par exemple, il y a un arrêté préfectoral qui interdisait les moissons de 14 à 18 heures et les gens qui moissonnaient la nuit, parce que comme il n'y a pas d'humidité, tu peux moissonner la nuit, et ben ils se sont ramassés des plaintes parce qu'ils faisaient du bruit, quoi.
Il faut respecter tout le monde.
Mais d'où tu respectes le travail des autres, quoi.
Bah, oui.
Et je pense que la cloche, c'est le pied dans la porte de tout ça.
Le piqueur, il vient devant chez toi à 2h du mat, tu dis, ah ben non, il travaille, je le respecte.
S'il a une réglementation qui lui impose de faire ça, oui.
Mais elle a raison, parce que je viens de regarder les horaires, par exemple, des 5 prières dans l'islam. La première, là, c'était à 4h du mat, et la dernière, c'est à 23h20. Donc je peux vous dire que dans les pays musulmans, vous allez pas leur dire à 4h du matin t'arrêtes le muezzin, tu vas vite te faire remettre les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire.
Sauf les Français qui se souviennent de Jean Dujardin dans OSS 117 qui va dire au muezzin de se taire.
Voilà.
Parce qu'il dort.
C'est ça. Ouais.
Voilà, donc un comportement très gaulois de la part de cette habitante.
Qu'ils
aillent vivre dans le pays de Mad Max avec un casque de réalité augmentée. C'est pas comme si on n'était pas suffisamment individualiste.
Exactement.
Que cette dame change de maison et aille vivre loin de l'église.
Mais qu'elle se casse.
Bref,
de la forêt, voilà.
Alors c'est vrai que cette habitude.
À Rome, on vit comme chez les Romains. Je suis désolée. C'est quelque chose qui nous unit.
Merci Maude. Merci Maude à vous. Merci. Et le mot de la fin dans cette discussion à Alain qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Alain.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette habitante ? A-t-elle eu raison et elle a obtenu gain de cause ? Est-ce que le maire a eu raison de lui donner gain de cause sur les cloches qu'il fallait arrêter la nuit ?
Ben, bien sûr qu'elle a raison. C'est pas le fait de supprimer le clocher la nuit qui sonne des cloches. C'est pas ça qui va changer les traditions françaises. Bon, il faut respecter aussi, si on arrête les cloches de 11h du soir, 6h du matin, ben écoutez...
C'est pas choquant.
Ouais, c'est pas choquant du tout, non. Pour moi, c'est pas choquant du tout.
Et pourtant, vous vivez à la campagne.
Oui, je vis à la campagne. Je suis agriculteur, bon, retraité, mais je suis toujours un petit peu en activité. Mais j'avais parallèlement à mon activité agricole, j'avais aussi une entreprise de travaux agricoles et avec des engins de récolte. Et des fois, ça nous arrivait de travailler la nuit, mais c'était occasionnellement pendant les vendanges, quand on faisait les vendanges.
Et vous n'avez jamais eu de plainte, Alain?
Non, parce que bon, certains, oui, se plaignaient que on faisait du bruit le matin.
Bah ouais.
Bon, mais là, je peux le comprendre, mais bon, on leur expliquait que c'était saisonnier et que bon, c'était pas toute l'année, quoi. Alors que
merci. Merci Alain. Donc vous dites, on peut arrêter de faire sonner les cloches la nuit. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre invité Agnès Pannier-Runacher, l'ex-ministre de la Transition énergétique, face aux grandes gueules. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.